RMC.
Comment on dit un mensonge en anglais?
Good luck.
4 occasions franches, 5 tirs au but, 14 centres. Ah, ça va, ils n'ont pas non plus joué avec le reculoir, quoi.
Jimmy Brown, l'after foot face au Tchad. Bah, ah, bam.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Et oui, on est là. Bonsoir à toutes et à tous. C'est Génération After comme tous les soirs. RMC de 20h à 22h. Bonjour à toi qui nous écoute en podcast et nous regarde sur After Foot TV. Ce soir, autour de la table, les titulaires. Kevin Diaz est là. Salut, KD.
Salut à tous.
Walid est là aussi, Walid Acharchour, bonsoir Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Et il lance sa saison ce soir sur l'antenne d'RMC. Jimmy Brown est là, salut Jimmy.
Salut les gars, ravi de vous retrouver, d'être assis à côté du co-leader du National 2, c'est un honneur.
C'est incroyable,
c'est un honneur.
Il va falloir qu'on en parle quand même.
Il arrive à 19h, on ne l'a pas vu une seconde. Mais,
t'as vu maintenant préparé. Alors, comment janvier, ça on l'interprète
pour remettre un coup de collier sur la deuxième partie de saison.
Et moi je vais mettre un coup de contexte quand même.
Ouais.
Le directeur sportif des Samaritano, c'est avec nous ce soir.
Exactement, ça c'est quand même un honneur.
Promu en National 2, déjà un exploit de monter en National.
Après, Gilbert va dire que c'est moi qui parle de ça, moi.
Aujourd'hui, co-leader du National 2 après 3 journées.
Avec très peu de moyens, encore une fois.
Il a battu le Istres de Fouad Kadir ce week-end.
C'est fort.
Fouad Kadir était là. Ouais.
Il a arraché un match nul contre Cannes en
Nico Jamin était là aussi.
Ah, moi, je suis CM maintenant, non officiel, c'est mort. Voilà.
Cannes avec des propriétaires multiples.
Il a battu les Friedkin. Ah, non, il a fait nul contre les Friedkin.
Nul face aux Friedkin. C'est...
Où est-ce qu'on Kevin Diaz face au Friedkin, faut se rendre compte quand même.
Où est-ce qu'on va arrêter
sans intendant en plus.
Par contre, sans intendant.
Non mais on rigole, on troll un petit peu, mais c'est extraordinaire.
Non, mais c'est super.
Un début de saison exceptionnel.
Vous la montez en
absolument
national?
Pas, absolument ouais. Pas.
Non.
Non. Je me maintiens plus que jamais.
D'accord.
Ça me fait bizarre quand même d'être allé voir un match de National 2 de Saint-Maur en me disant équipe de Kevin Diaz, en me disant que les Girondins jouent dans la même division.
Ouais.
Là, ça m'a fait mal quand même.
Ouais. Il va falloir que tu sois sur la raison quand même.
Qu'est-ce que ça va être quand ils seront en national et qu'ils seront encore en N2
ouais. Quand tu vas jouer les petits Girondins en coupe. C'est parti pour Génération After ce soir au programme. Le Marseille, le capitaine Léo Balerdi va-t-il devenir remplaçant à l'OM? Ce sera chaud dans un instant le débat. On sait ce que pense Kevin de Balerdi. On en débattra avec vous au 32-16 également, Walid et Jimmy. Lille est-il le grand gagnant du mercato? Financièrement, balance dans le vert, dans le très très vert, même vert vif. Et des très bons choix, on va en parler. Igaman aux côtés d'Olivier Giroud, Benjamin André qui est resté, l'effectif au complet, malgré beaucoup de départs. Et puis Lyon aussi au programme, peut-il tenir sur la durée avec un effectif peu profond, avec le seul Satriano arrivé sur le front de l'attaque pendant ce mercato, surtout après le départ de Mikko Tadze. Là aussi, on vous attend nombreux au 32-16 supporters de l'OL. Et puis bon, l'abonné, désormais abonné de. Paris FC veut faire un avis pour lancer sa saison à l'antenne. Jimmy Brown ce soir.
Absolument. Ce week-end, c'était une très belle.
Déjà en colère.
Après sa fin d'expérience.
Réussi
dimanche contre Metz. Il vient nous parler du projet
Paris.
Je suis très très content parce que.
Mais déjà un abonné en colère parce qu'il dit où est l'expertise Red Bull dans mon club, le Paris FC.
Mais attention, parce que.
J'irai pas jusqu'à mon club quand même. Abonné, parce qu'on peut aller voir du foot. On a la chance de pouvoir voir du foot à Paris intramuros toutes les semaines. Donc on.
Mais attention, parce
que. C'est la première fois que je vois un abonné qui n'est pas supporter.
Moi j'aime le foot. J'ai amené mon gamin. Je suis pas.
Voilà. À part ceux qui sont. Dont des amis à moi qui sont abonnés au PSG juste pour l'oseille et pour se faire des plus-values.
Ouais.
Mais sinon, c'est rare quand même d'être abonné si t'es pas super.
Est-ce qu'on peut autoriser un abonnement sur deux clubs? Moralement?
Ouais, écoute.
Bon, pose question, c'est un vrai débat.
Je vais régler ce problème très vite. C'est que le PSG, ça joue souvent le soir et que moi, c'est pour amener mon fils au stade et que malheureusement, je peux pas l'amener au Parc des Princes, très rarement. Le PFC, la programmation fait que ça va souvent être le dimanche 15h ou le dimanche 17h15. Donc c'est.
Fils bascule par FC. Hein.
Attention à cet argument de fan, un peu comme. Tu sais, c'est un peu le papa qui va voir une star et qui dit non, c'est pour mon fils en fait, alors que c'est lui qui est fan. Attention à l'excuse du fiston pour aller au PSG.
Je m'en suis jamais caché ici, je suis supporter du PSG. Ça fait 20 ans que je suis abonné au Parc. C'est pas pour autant que quand on a la chance d'avoir un deuxième club parisien en Ligue 1, on peut pas aller les voir.
J'ai déjà dit Jimmy.
Voilà. Il y a le Red Star la semaine prochaine, tu viendras avec moi.
Et puis, par exemple, tu vas au Red Star
un peu.
Tout le monde sait que tu vas plus voir.
Il a lâché le Red Star.
Pas du tout.
Les amis, Gilbert attend patiemment son tour. L'after à 22h.
Bonsoir. Salut les gars. C'est vrai que le Red Star conclut un beau partenariat avec RMC.
En plus, on ira à Beauvoir cette année aussi.
Et on
ira à Saint-Maur voir Kevin.
Exactement. On ira partout pour ces 20 ans. Nous sommes des soutiens actifs du Red Star. RMC.
Et gros début de saison, Red Star. Belle victoire contre Annecy. Hein.
Non, mais il faut quand même qu'on fasse gaffe parce que je reçois des mails réguliers de supporters. J'en ai reçu de Auxerre, du Havre et d'Angers qui me disent c'est quand même bizarre, vous parlez plus de Saint-Maur que de mon club.
Et en fait, à la réflexion, c'est pas faux.
Ouais. Je tiens à dire que c'est, ça ne vient pas de moi.
Il
bon.
Y a un petit jeu, il y a un petit jeu avec Kevin.
Un comique de répétition.
Bon, 22h. Fabrice Hawkins sera là parce qu'il sort un bouquin sur les coulisses des deux dernières saisons du PSG. Vous allez apprendre pas mal de choses sur la saison dernière, les difficultés, les célébrations. Pas mal de choses également sur la gestion de Mbappé, la dernière saison de Mbappé, ce qui s'est passé en coulisses. Révélation donc de Fabrice tout à l'heure à 22h dans l'after. Vous allez voir, ça va être passionnant. On va également parler des difficultés lyonnaises avec des éléments économiques que nous apportera Nicolas Pelletier, plus Deschamps. Parce que Deschamps, il dit « Ouais, c'est comme ça, c'est ma dernière année. De toute façon, en France, quand tu restes longtemps quelque part, on ne peut plus voir ta gueule au bout d'un moment. » Ouais, il commence bien sa dernière année, quoi. On va voir si on est d'accord avec lui ou pas. Et puis, qu'est-ce qu'on a ?
Qui a toujours soutenu Deschamps, après, il devrait pas avoir...
Et puis, Deschamps, il auto-analyse, l'autocritique. Pas trop son truc.
En effet. Opta, vous savez, Opta, les spécialistes des stats dans le foot, Walid est fan, ils ont fait leur projection sur le classement de la saison. Donc, on vous le dévoilera tout à l'heure.
Ah, c'est intéressant, ça.
On verra ce qu'on en pense. Et puis, on verra surtout comment ils font leur calcul, parce que c'est bien gentil, tout ça, mais...
Quand même, le PSG est premier.
Et bah, oui, là, je suis
la surprise. Surtout, c'est qu'ils mettent Marseille 5e dans leur classement provisionnel. Donc, ils vont nous expliquer
comment ils construisent ça.
Voilà, comment ils font ça.
Exactement. Et puis, du coup, nous, on s'amusera aussi à faire nos prévisions. Mais là, c'est pas statistique. C'est tu vois, il y a de la
prédiction.
Il y a de l'humain, il y a de la chair, il y a du ressenti, il y a de l'analyse. Ouais.
La vision.
La vision. Voilà,
la vision.
Là,
c'est l'expertise.
Là, c'est l'expertise qui parlera.
Ouais.
Et puis
on gardera ça en boîte pour la fin de saison quand même.
Et puis notre nouveau, bien évidemment, t'inquiète pas que Jimmy, il a déjà tout. Et puis notre nouveau rendez-vous du mardi soir, le dialogue direct avec le chat YouTube, avec les SMS de l'after, car nous avons un nouveau numéro SMS.
C'est un peu mieux cadré que la dernière,
le numéro WhatsApp. Un peu mieux. 0612 424 424.
C'est fort.
Évidemment.
C'est fort.
C'est le numéro que vous pouvez joindre. D'ailleurs, j'ai un message, Gilbert, pour toi de Max.
Ouais.
Dis bonsoir à l'after, la bise à Gilbert, car je vous écoute en direct d'Aktao au Kazakhstan.
Ah, énorme.
Ça, c'est fort. Ça te plaît, ça.
Surtout que c'est un petit bled, ça. C'est pas, là, t'es pas Almaty, là. Là, il est dans la steppe, là. Voilà. Là, c'est du moins 30 en hiver, là.
Mais bravo et bonsoir à toi, cher Max. Merci, Gilbert. À tout à l'heure pour l'after. 32-16 ouvert, vous le savez, vous nous appelez pour vous mêler au débat, bien sûr. Je rappelle également qu'on est en vidéo direct, vidéo sur la chaîne YouTube et sur Afterfoot TV. C'est parti donc pour Génération After. On commence par Marseille. On voulait angler sur Balerdi ce soir parce qu'effectivement, ce mercato a été riche côté marseillais, surtout en défense et en défense centrale. Le capitaine argentin voit débarquer une grosse concurrence. Naïef Aguerd, Benjamin Pavard, Facundo Medina, CJ Egan Rayleigh, Amir Murillo qui est déjà là. 6 hommes pour 2 places a priori, puisque De Zerbi aurait dans l'idée de jouer avec une défense à 4. C'est ce qu'il a fait pendant la prépa, ce qu'il a fait depuis le début de la saison en Ligue 1 sur les 3 matchs pour l'instant cette saison. Question ce soir, Balerdi doit-il être relégué sur le banc, lui qui a été, je le rappelle quand même, il y a quelques semaines, déclaré intransférable par Pablo Longoria, par Mehdi Benassia également, et à qui il reste 3 ans de contrat. Que faire avec le capitaine Léo Balerdi? A-t-il encore son rond de serviette, entre guillemets, au sein de la défense centrale de l'Olympique de Marseille? 32-16 pour en débattre. Je vais commencer avec toi, Kevin, parce que c'est un sujet épidermique chez toi, Balerdi.
Absolument pas. C'est Walid qui va commencer, parce que...
Préfère.
Bah bien sûr, c'est à Walid de répondre.
Pardon, moi, c'est lui qui décide.
Moi, c'est
parce que tu estimes, en fait, tu estimes que à l'arrivée, t'as raison. Voilà. Et que donc maintenant, t'attends Walid pour le cueillir au coin du bois.
Enfin, moment, il peut répondre quand même à la question.
Il y a un moment.
C'est moi qui pose des questions.
Il y a un moment, les gars.
La pige, elle est payée.
Quand il pleut, il pleut. Quand il pleut, il pleut. Quand il fait beau, il fait beau.
Mais tu vas faire ton boulot ce soir.
Walid, là, il pleut.
Il pleut. Il y aura ça cette saison-là.
Ok, d'accord. Il pleut, donc vas-y.
Non, parce que sinon...
Vas-y, vas-y.
Non, tu commences.
Non, il pleut sur Balerdi, c'est à Walid. J'avais dit à Najib cet après-midi, quand on a parlé du sujet.
Il envoie des messages,
quand il a... C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs.
Le WhatsApp, il est disponible.
Des dimanches.
On peut démarrer l'émission, les gars.
Ouais. Vas-y.
Allez.
Non, mais tu veux que je réponde, non? Pour moi, vas-y, non. Balerdi ne doit pas être remplaçant à l'Olympique de Marseille. Il fait un début de saison qui est cataclysmique. De toute façon, il faut avoir des yeux pour le voir, hein, tellement c'est flagrant depuis le début de saison. Il est fautif contre Rennes, il est fautif contre le PFC, il est encore fautif sur l'expulsion de Egan Rayleigh. Lui-même a dit qu'il en prenait la responsabilité. L'année dernière, déjà, son début de saison avait été compliqué et derrière, il avait réussi à rehausser son niveau. On avait même eu pas mal de débats sur son rôle de capitaine. Est-ce que c'était une tâche un peu plus importante en termes de pression à l'Olympique de Marseille? Maintenant, moi, ce que je demande à Balerdi, bien évidemment, c'est de
l'avait ce début de saison à l'image de l'Olympique de Marseille. Est-ce que ce qui s'est passé après Rennes, notamment avec Rabiot et Rov et tout le contexte marseillais a pu jouer? Je sais pas, mais en tout cas
c'est fou, Rov.
C'est Ro.
Maintenant il est parti, en plus on peut arrêter
Ro, parce que j'avais entendu pas mal de personnes
à Marseille, certains l'appellent Rov.
OK, donc on va l'appeler Jonathan Ro. Mais est-ce que à l'instar d'autres leaders avec un Højbjerg que je trouve pas bon non plus, un Rouli qui est un peu moins bien, et même tout l'Olympique de Marseille qui fait un début de saison très très compliqué, est-ce qu'il doit pas bien évidemment hausser son niveau de jeu sur le retour de trêve? Ça c'est une certitude. Maintenant moi je trouve qu'avec les arrivées de Pavard et de Hagern, il va être bien outillé, et de Medina pour faire son boulot à l'Olympique de Marseille. Moi, même si je sais que Kevin va dire qu'il a raison, etc., moi je reste persuadé que Balerdi a des grandes qualités pour être un défenseur central à Marseille. Tu fais pas 5-6 ans à l'Olympique de Marseille avec 5-6 coachs différents en étant une pipe. Maintenant c'est vrai que il y a des gros red flags sur Balerdi. Souvent il manque de fiabilité à des moments clés. J'espère qu'avec les renforts, parce qu'il faut pas oublier que l'année dernière et encore sur le début de saison, il a joué avec des Murillo, avec des Cornelius, avec des joueurs qui
avec pour Kondogbia, moi bien parfois. Le paradoxe, c'est que moi je pense que c'est une bonne nouvelle les recrues pour lui.
Avec des joueurs qui n'étaient pas au niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille, et peut-être que ce rôle de leader est beaucoup trop grand pour lui. Mais avec les arrivées que je viens de citer, je pense que Balerdi peut constituer un élément fort. Peut être un élément fort de cette défense marseillaise, et il ne faut pas l'enterrer pour moi.
Kevin.
Non, mais c'est pour ça que je voulais voir si Walid avait allumé la lumière. Mais il y a un moment, tu l'as dit, ça fait 5 ans
qu'il est allumé ou pas ?
Non, toujours pas. Ça fait 5 ans qu'il est en Ligue 1, Léo Balerdi. Ça doit être un bon gars, un gars qui s'entraîne fort, un gars qui a un bon état d'esprit, sinon il aurait pas joué avec les différents entraîneurs, pas de problème. Mais ce que je me tue, moi j'ai rien contre Léo Balerdi en fait. Je l'ai jamais rencontré, j'ai pas de problème avec lui. Le problème, j'explique à Walid, on fait l'after depuis plus de 3 ans ensemble, et je lui explique des choses factuelles. Tu ne peux pas être un bon joueur de haut niveau si tu fais une erreur grossière, je dis pas une demi-erreur, une erreur grossière tous les matchs. Il n'y a pas un match où il ne fait pas une erreur grossière. J'exagère, il y a peut-être 4-5 matchs dans l'année. Des fois, l'erreur, elle est sanctionnée par un but, un carton rouge. C'est un des joueurs qui a pris le plus de cartons jaunes en Ligue 1 depuis qu'il est arrivé. Des fois, l'erreur, elle n'est pas sanctionnée parce que le gars rate sa passe, parce que le gars rate sa frappe, parce que le gars fait le mauvais choix ou parce qu'elle est rattrapée. Ce qui a failli être le cas par Egan Riley, comme ce week-end, par un coéquipier. Mais tu ne peux pas être un cadre capitaine du deuxième ou troisième club de Ligue 1 si tu fais une erreur qui peut coûter un but à tous les matchs.
Exagère un peu tous les matchs.
Allez, à 70% des matchs que tu joues. Mais même dans les bonnes périodes.
Kevin, t'es souvent là pour les enterrements, jamais pour les mariages. Mais il s'agit de Balerdi quand même.
Non, pas du tout.
Balerdi, quand il fait un bon match, tu le suis vraiment. Ça lui arrive de faire des bons matchs quand même.
Mais il a même fait une bonne saison l'année dernière. Il fallait le vendre en fait. C'est pas un gars qui est régulier. Donc, ils l'ont fait pour Luis Enrique. Ils ont eu la lucidité.
Jimmy, il a raison. T'es sur messagerie.
Je peux finir.
Quand ça se passe bien pour Balerdi, t'es sur messagerie.
Je peux finir.
Par contre, dès que Balerdi fait une erreur, t'envoies un message à toute la terre.
Laisse finir, Kevin.
Je suis rarement sur messagerie.
Vas-y, Kevin.
Soit je t'envoie directement sur messagerie, mais c'est autre chose.
Allez.
Mais Leonardo Balerdi, son problème, c'est que il fait une bonne saison l'année dernière.
Et l'année d'avant aussi. Quand ils font huitième, il est très très bon en Europe.
Oui, ils font huitième.
Oui, enfin, il est pas
donc,
d'accord.
Donc, en fait, je n'ai pas dit que c'est un mauvais joueur. J'ai dit que ce n'est pas un joueur pour l'OM depuis le début.
Oui, il y a
je
un manque de fiabilité.
Toi, tu m'as même dit qu'il allait finir à l'Inter, à la Juve ou à l'Atlético Madrid.
Je continue d'y croire.
Ok.
Je continue d'y croire.
On verra. Ouais, on verra. Mais c'est pas rien. Luis Enrique, il est à l'Inter, il n'a pas le level. Il n'a pas le niveau de l'Inter, mais il y est. Donc très bien. Donc l'OM, en fait,
il finit
donc. Donc l'OM aurait dû faire comme ils ont eu la lucidité de faire avec Luis Enrique. T'as une période catastrophique. T'es venu, tu sors de nulle part, tu fais une saison correcte, allez hop, on prend le chèque, ciao. Et là, ils m'ont sorti. Mais bien sûr, c'est. Comment ?
C'est le même style de joueur que Luis Enrique et Balerdi.
Je ne dis pas que c'est le même style de joueur, je dis qu'il aurait dû avoir le même style de projet pour lui. T'es bon depuis un an, allez, tu veux dire plus d'un an ? Merci. serre la main, merci.
Mais Kevin, on dit tout le temps, c'est toujours la machine à laver à l'OM, ils arrêtent pas de changer de joueur.
D'accord, mais c'est ça qui va pas. C'est qu'en fait, c'est la machine à laver, le seul mec qui déteint sur tous les autres, le seul t-shirt rouge dans le blanc, le mec qui te le laisse dans le club, ça fait 5 ans.
Donc tous les mots de l'Olympique de Marseille,
j'ai dit qu'il y a quelques machines qu'il a fait mettre en rose, et ça c'est clair.
Donc ça veut dire que ce qui se passe autour avec Kondogbia, Cornelius, Murillo,
ils l'ont mis capitaine.
Ça c'est autre chose.
Ils ont dit qu'il était intransférable.
Est-ce que le capitaine est trop lourd? Moi je peux te rejoindre.
C'est pas que le capitaine est trop lourd, c'est même le rôle de titulaire indiscutable, il est trop lourd.
Sur le manque de fiabilité, c'est vrai que moi encore une fois, tu regardes le match de Lyon, il te crève. Il y a beaucoup de matchs où il
peut début de saison, il est pas bon.
Il est pas bon du tout, c'est une réalité. Mais maintenant, je te dis, si tu m'expliques, on sait très bien que le métier de défenseur est le métier le plus compliqué aujourd'hui parce que tu fais une erreur, tu peux tuer ton match pendant 90 minutes. Tiens, au passage, sa deuxième mi-temps, elle est pas si mauvaise que ça.
Mais je n'ai jamais dit qu'il était mauvais de 4 sur 90 minutes.
Sauf que nous, on est aussi dans l'analyse, on est des observateurs et on doit parler d'un point de vue global sur toute la rencontre. Et oui, c'est vrai qu'il y a des facteurs temps avec Balerdi où parfois, je dirais pas tout le temps, parfois, et ben quand ça pue, il est souvent
parce que le rôle de leader de défense, Wadid, je pense qu'il est pas taillé pour ça et qu'avec les mecs qui vont arriver, d'être le coéquipier d'un Aguerre, d'un qui a de l'expérience, de Medina qui va lui apporter, même de Pavard, je pense que ça va l'aider à progresser.
Ceci, on part du principe que après la liste que j'ai égrenée, hein, Aguerre, Pavard, il y aura deux défenseurs centraux, une charnière à deux, hein, cette saison.
Est-ce qu'on est sûr de ça, ad vitam aeternam?
Ça peut jouer, on n'est jamais sûr. Il l'a fait
en cours de saison.
Est-ce que les 6 désormais vont le faire basculer dans une défense à 3? Peut-être.
Très peu.
Donc, pour vous, Aguerre, c'est un gaucher, hein, ouais, de Balerdi, d'accord. Il faut tenir compte de ça, à droite et gaucher, hein, les amis. 6 sont 2, surtout.
C'est en concurrence avec Pavard.
Pavard, Aguerre, Medina. Pour vous, il passe devant ces gars-là, Balerdi, aujourd'hui.
Peut-être qu'il joue avec les 3. Moi, je pense qu'il peut jouer.
Sur l'hypothèse d'une défense à 4.
Même la défense à 4, tu peux jouer.
Est-ce qu'il passe devant Aguerre et Pavard? C'est la question.
Mais Pavard, pour moi, il n'y a pas de défense.
Il peut jouer à droite, Pavard.
Il jouera latéral droit. Je l'ai déjà dit hier.
Il faut jouer latéral.
Mais pour moi, il fera.
Qui se bat depuis des années pour jouer
alors 4 centraux.
Moi, pour moi, il fera la défense de 4 centraux. Comme Arteta.
Moi,
comme
de toute façon,
là, quand il a mis Gvardiol sur un côté, notamment, Akanji ou Ake sur un côté. Moi, je pense que dans les très très gros matchs, il jouera avec Medina à gauche.
Ça n'empêche que Balerdi pourra toujours te crever en tant que central.
Ça, c'est une réalité. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que le chantier des défenseurs centraux à l'Olympique de Marseille, le problème n'était pas Balerdi.
Je n'ai jamais dit que c'était le problème numéro 1 de l'OM.
On a compris ton avis sur Balerdi, on le partage en ce moment parce qu'il est cataclysmique. Maintenant, si on doit prendre du recul avec ce que vient de dire Nico Jamin, c'est la question, est-ce que Balerdi doit être remplaçant avec les nouveaux arrivés à l'Olympique de Marseille? Tu réponds quoi, toi?
En tout cas, il ne doit pas être titulaire indiscutable et capitaine.
Mais bien évidemment, c'est-à-dire que sur le côté titulaire indiscutable, il nous apprend rien. Il doit être challengé comme tout le monde.
Quand t'es capitaine, t'es censé être titulaire indiscutable.
S'il est pas bon, bien évidemment.
Non, c'est pas en ce moment.
Kevin, il le sait déjà ça. Voilà.
Non, mais c'est-à-dire que s'il est pas bon sur la durée, il y a des alternatives aujourd'hui pour se passer de Balerdi.
Et encore une fois, ce qui est très paradoxal avec Balerdi, ce n'est pas un mauvais joueur. C'est un joueur qui fait des erreurs constamment, en fait. C'est comme si tu me dis, c'est un bon gardien, mais il te coûte un but par match. Mais c'est pas un bon gardien.
Non, il te coûte pas un but.
Il a pointé à juste titre. Moi, je suis d'accord avec Kevin. C'est vrai. Le constat, il est factuel. Sur le début de saison, il a planté Marseille. Sur 2 matchs, sur 3 matchs même peut-être.
L'année dernière, contre
Lyon, il a été responsable.
L'année dernière, il fait pas une saison.
Mais moi, là où je rejoins Wadid, c'est que son partenaire de défense, il a pas joué avec des mecs très haut niveau comme les mecs qui sont en train d'arriver là, et je pense que ça peut te faire progresser, ça peut te rendre plus à l'aise sur le terrain.
Sûrement.
De pas avoir la responsabilité d'être toi le leader de défense. En plus, il a le brassard, comme tu dis, c'est une responsabilité. Ça fait peut-être beaucoup pour lui.
Erreur, je l'ai dit
ça
aussi.
Va le soulager. Moi, je pense que ça va le soulager d'avoir un mec comme Aguerre, d'avoir un mec comme Medina, d'avoir Pavard, ça va soulager Balerdi et ça peut le rendre meilleur.
Le métier d'être défenseur central de l'Olympique de Marseille avec le brassard de capitaine en jouant à 40 mètres de ton but.
C'est beaucoup.
Mais moi, sincèrement,
c'est dur à porter.
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs.
Et la question, c'est est-ce que lui, il est capable de jouer à 40 mètres de son but, justement?
Il a les qualités d'un défenseur moderne pour moi. Le problème de Balerdi, et je l'ai toujours dit, c'est qu'il est beaucoup trop ambitieux dans son jeu. C'est-à-dire que, à partir du moment où, et là, sur ça, moi, je rejoins Kevin là-dessus, c'est qu'il a pas progressé. C'est-à-dire que dès qu'il voit qu'il y a un mec, qui physiquement peut lui rouler dessus, Bah, il joue de la même manière en étant très proactif défensivement, en défendant en avançant.
Il est un peu kamikaze.
Sauf que le problème, que quand t'es dans une défense à 4, comme c'est le cas depuis le début de saison, et ben si tu te trouves derrière, il y a des espaces béants et t'es en grande difficulté. Donc ça, il va falloir que Balerdi, bien évidemment, retrouve sa lucidité, retrouve sa forme, retrouve son mental. C'est bien beau de dire en zone mixte, je prends la responsabilité du carton rouge d'Egan Riley, mais il ne pourra plus faire ces erreurs-là, surtout que Balerdi, là, on va aussi l'attendre en Ligue des Champions. Moi, j'avais été agréablement surpris de ce qu'il avait fait en Ligue Europa l'année où ils font demi-finale contre l'Atalanta, où il avait été très bon contre Benfica, contre le Shakhtar, contre Villarreal notamment. Ça va être à lui, même si au retour, il n'avait pas été bon.
C'est quoi pour toi un bon défenseur? Un bon défenseur, c'est un défenseur qui gagne des duels.
Je réponds dans un instant, il faut qu'on fasse une pause. Okay. Et on aura Kevin également au 32-16. Vous donnerez, vous, là, sur le papier, en tout cas pour l'instant, on n'a pas ces éléments, votre défense idéale à l'Olympique de Marseille pour cette saison, maintenant que le mercato est terminé. Kevin, attends, on arrive dans quelques secondes avec toi, et puis on va essayer de régler le petit problème de son qu'on a sur notre chaîne YouTube de l'After. Reste avec nous, la suite de Génération After, avec Kevin Diaz, Wede Chercheur et Jimmy Brown, 20h21, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, Wede Chercheur, Jimmy Brown, début de Génération After, un peu chaud, un peu dissipé même, c'est plus que chaud, dissipé. Kevin, tu parles un peu trop sur Walid, et Walid, tu parles un peu trop sur Jimmy, que Jimmy qui est discipliné.
Il me posait la question, qu'est-ce qu'un bon défenseur?
Oui, alors tu vas y répondre et après j'accueille Kevin. Tu as réfléchi à ça ou pas?
Oui, bah pour moi, encore une fois, les qualités de Balerdi, je trouve que dans l'anticipation, dans la relance, dans ce qu'il impacte, même athlétiquement, quand il est très très bon avec l'Olympique de Marseille, il fait souvent des matchs pleins.
Mais c'est quoi un match plein?
Un match plein avec une erreur ou deux.
C'est un mec qui gagne les duels ou pas?
Oui, il gagne beaucoup de duels.
Il gagne des duels sans faire des fautes?
Pas tout le temps, mais il gagne beaucoup de duels.
Moi,
je l'ai vu faire un match l'année dernière monstrueux face à Balogun ou Mbolo à Monaco.
Faut vraiment que tu regardes. Si tu veux, un jour, on se pose, ouais, on regarde.
Bien sûr.
Le gars, ouais, à chaque fois qu'il fait un duel, bien sûr, il a de l'agressivité, la grinta, pas de problème. Il fait énormément de fautes. Des fois, elles sont sifflées, des fois, elles sont pas sifflées. L'art de faire faute sans faire faute, j'aime beaucoup. C'est aussi sa défendre. Il fait beaucoup de fautes. Il prend beaucoup de cartons.
Avec le ballon, je trouve très pertinent.
Avec le ballon, pas de problème.
Et il est très important dans le système de
deuxième. Il est très bon avec le ballon. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Très bon relanceur. Il a pas peur.
On aime ça, non?
D'accord, mais moi j'aime, mais il y a un moment, tu peux pas soit faire une erreur grossière d'alignement, il s'aligne comme un U13 district, très souvent, notamment tu regardes le but encaissé par Rennes, où il sort, mais c'est complètement dingue de sortir à la dernière minute comme ça. Bref, c'est pas la première fois, il fait beaucoup de fautes, beaucoup trop de fautes.
Il est dans une séquence très compliquée.
Mais c'est depuis qu'il est à Marseille, je t'ai
déjà
fait. Il prend plus de, il prend en moyenne
ça,
10 cartons par an.
Kevin.
C'est énorme, 10 cartons par an.
On va pas refaire l'histoire. Je vais accueillir Kevin au 32-16, supporter de l'OM. Salut Kevin.
Je suis en train de bouillir. Merci de me prendre.
Salut Kevin. Et merci de ta patience, Kevin.
Salut Kevin.
Salut. Bon, j'espère que vous allez me laisser finir.
Vas-y, pour moi,
c'est chaque année, c'est la saison de trop avec Balerdi. Il faut le vendre absolument. Le costume est trop grand pour lui, surtout en étant capitaine. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, Walid, si tu regardes le match contre Lyon, qu'est-ce qui fait à sortir sur Tolisso comme si Tolisso c'était Messi? Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène-là, comme si Tolisso est des six joueurs, mais reste en défense. Et toutes les actions qu'il fait là en début de saison de l'année dernière, elles sont sauvées par Rudy, parce que Rudy était stratosphérique l'année dernière en début de saison. Donc il fait énormément d'erreurs, ce joueur. Il fait énormément d'erreurs et le costume est trop grand pour lui. Donc quand je vois Benatia parler avec Longoria, je me dis, on prend un défenseur central. Non, oui, mais non, eux, ils en prennent deux. Et s'ils en prennent deux, moi je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, je pense que Balerdi a perdu la confiance des dirigeants et qui se posent beaucoup de questions. C'est pour ça.
Après avoir dit Kevin, il y a à peine deux mois et demi, il est intransférable. C'est l'incarnation du projet marseillais. Il est arrivé en 2020. C'est l'identité de l'OM.
Mais non, mais c'est pas vrai. C'est qui dit ça? Desherby. Ok, parce qu'il pense qu'il a été un de ses meilleurs joueurs défenseurs. Mais il y avait Cornelius et Kondogbia. Ah,
c'est tous des fous les coachs de l'OM.
Mais c'est ça, de Sampaoli à Desherby.
Tous des fous.
C'est-à-dire que. Mais attends.
C'est vous qui avez raison.
Heureusement qu'il est meilleur que Cornelius quand même et que Kondogbia.
Après, il y a eu que Cornelius sur les 6 ans comme défenseur central.
Vous n'allez pas me comparer Pavard et Agard avec Balerdi.
Bah, on verra cette année s'il joue ou pas. Alors, on verra cette année. Tu ne penses pas qu'ils peuvent lui permettre d'être meilleur?
Alors, il va perdre le brassard de capitaine. Je ne suis pas enregistré l'émission. Il va perdre le brassard de capitaine et il sera remplaçant en Ligue des Champions.
Ok. Bah, on prend les paris alors.
Ah ben, si tu veux, je te rappelle après.
Par contre, tu rappelleras comme Kevin quand c'est très très bien, ou tu n'appelleras pas et tu feras semblant.
Le problème, c'est que c'est jamais très bien.
C'est jamais très bien. Parce que moi, j'ai vu une fin de saison sans Balerdi l'année dernière, après sa blessure à Reims, où ils ont été en grande difficulté.
J'ai
vu un match à Auxerre.
Mais tu me parles d'un no man's land en défense.
J'ai vu un match à Auxerre sans Balerdi, ils ont été catastrophiques. Je te dis juste que si
c'est. On te dit pas que le seul problème de l'OM, c'est Leonardo Balerdi.
À domicile, il est là, tu prends 3-0, Walid. Qu'est-ce que tu me racontes?
D'accord, c'est vrai que tu joues pas avec Ulysse Garcia à ce moment-là, tu joues pas avec Murillo, tu joues pas avec les mecs qui n'ont rien à.
Au contraire, tu dis que l'année dernière, quand il est pas là.
On ne comprend plus rien. Kevin, et après Kevin au 32-16.
Voilà. Kevin, Walid vient de nous dire que quand il est pas là, la défense elle est cata. Et tu nous dis que quand il est là, la défense elle est cata aussi.
C'est pas le problème de l'Olympique de Marseille, qu'il est mal accompagné, qu'il est dans une séquence catastrophique, mais que je n'enterre pas Balerdi.
Incapable de vous écouter, c'est fou. Alors je rends la parole à Kevin au 32-16. Kevin.
Alors moi je vous dis vraiment une chose. Ce n'est pas un leader de défense. Je me rappelle de l'époque où tu avais un grand défenseur comme Blanc et tu avais Domoro à côté. Domoro était moins bon, mais tu avais un vrai leader en défense. Mais c'est ce mec-là qu'on a besoin. Désolé, il n'est pas assez bon.
Alors, pour Kevin, jouer titulaire de Marseille.
Oui, tu vois.
Quelle est ta bah là, après, on va attendre de voir les formes des uns des autres, hein, à la fin de ce mercato. Ta défense idéale, là, maintenant que tu as tous les éléments en tête, là.
Ma défense idéale, ça va être peut-être à trois défenseurs qui jouent à trois défenseurs avec Medina à gauche, Pavard à droite et à garde dans l'axe. Et en remplaçant, tu joueras contre Lorient avec Balerdi titulaire si tu veux, mais en Ligue des Champions, tu joueras avec ces trois joueurs et avec Murillo à gauche et à droite, tu mets qui tu veux, je m'en fous, mais en défense centrale.
Murillo à droite et Emerson à gauche.
Mais en défense centrale, ce n'est pas un leader, c'est un capitaine, il doit rassurer son équipe. Est-ce que vous le sentez rassurant? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous le sentez rassurant sur un match de foot?
On va voir sans Balerdi ce que ça va donner alors.
Bon, la tienne, c'est quoi ta défense?
Moi, je l'ai dit, moi, ma défense.
Une défense à 4 d'abord.
Défense à 4 derrière, Medina, Aguerd, Balerdi, avec Pavard. Une défense à 4.
4 centraux.
À 4 à plat.
Comme Deschamps l'a fait aussi en équipe de France.
Exactement, comme ça se fait dans beaucoup d'équipes en Europe.
Non, moi, je serais plus sur la formule de Kevin. On va rester dans la team Kevin avec un Balerdi qui sera utile à l'OM, hein, pas de problème, mais plus en Ligue 1, en Ligue des Champions. Pour moi, en plus, avec la charge émotionnelle que représente la Ligue des Champions, Vélodrome, etc. Moi, je peux pas lui faire confiance. Mais j'aimerais vraiment poser la question à Mehdi Benatia, qui était quand même un défenseur.
Qu'est-ce qu'il trouve sur WhatsApp, Benatia est un ancien défenseur central, il a la légitimité pour juger le niveau de Balerdi.
Tudor aussi, il devait être attaquant à l'époque. Tudor, non? Il était attaquant quand il a joué.
J'aimerais bien en parler avec Mehdi Benatia ou avec Igor Tudor, si tu veux.
Ou avec Sampaoli, avec Marcelino.
Avec Deserbi, enfin, je vais parler avec beaucoup de monde. Avec beaucoup de monde, c'est la réalité.
Il y a personne.
Moi, pour répondre à la question, je pense que Tudor, il va, avec le matériel que tu as à disposition, il va tourner énormément, il n'y aura pas de défense type. Murillo, par exemple, des mérites pas, je pense qu'il va jouer ses matchs aussi.
On parle des gros matchs, Jimmy, côté droit. On parle des classicos,
sur les gros matchs de Ligue des Champions, moi j'imagine les 4 centraux aussi. Je pense que ponctuellement, Pavard, évidemment, il voudra jouer dans l'axe de temps en temps, mais sur ces gros matchs-là, il acceptera, je pense, de jouer arrière droit, d'avoir.
Medina, joueur que j'adore, Medina, il fait jamais d'erreur, il fait jamais de. Et il défend pas en avançant, il est pas rattrapé par Danso la première année, hein, avec Lens, avec cette défense à 3. Medina, bon. Il va arriver à l'Olympique de Marseille, il fera jamais d'erreur.
Bon, Kevin, plus globalement, qu'est-ce que tu penses du mercato marseillais là?
Le mercato marseillais, ce qui me dérange le plus, c'est le recrutement au dernier moment, mais après on fait des bonnes affaires en fin de mercato, donc on perd les trois premières journées, on perd des points bêtement. Moi je trouve ça vraiment dommage, on se tire un peu une balle dans le pied, mais bon, avec l'effectif au complet, et pas que ça, Aubameyang et Greenwood, j'aimerais bien que le jour où vous faites une émission sur lui, j'aimerais vraiment passer, parce que c'est vraiment un point très négatif. C'était ma plus grosse déception depuis le début de saison. Autant Balerdi, j'ai l'habitude, mais Greenwood, qui marchait sur tout le monde dans les matchs amicaux, je le trouve très en dessous de son niveau. Et ça me fait très peur pour la suite de la saison, parce que la saison, elle dépend beaucoup de lui aussi.
Mais tu sais,
on met Balerdi et Greenwood sur le banc, quoi.
Je me pose souvent la question de savoir que doivent faire les clubs comme l'OM, par exemple, quand ils ont un mec qui performe ou qui surperforme, en l'occurrence pour Balerdi, peut-être même pour Greenwood, comme la saison dernière. Bien sûr que dans l'absolu, tu te dis, allez, on les garde, on va construire là-dessus, on va essayer de capitaliser avec un recrutement intelligent. Mais combien de fois on voit un joueur comme Greenwood l'année dernière, qui a été excellent, même jusqu'à la préparation, qui a peut-être eu des offres cet été, ou comme Balerdi, qui a été correct selon Walid depuis un an et demi.
Et selon toi?
Qui a été pas plus que correct. Toi, tu trouves qu'il a été très bon. moi, je pense qu'au final, on ne peut plus reprocher au club de vendre leurs meilleurs joueurs quand ils ont une grosse offre qui arrive. Parce qu'en fait, les mecs, regarde, même Greenwood qu'on adore, en soi, footballistiquement, mais il est j'ai même pas le mot, j'allais dire tête à claque, mais il est insupportable depuis le début de saison.
Sa première mi-temps, il est catastrophique.
Il est insupportable à marcher, à pas comprendre que là, ton club, il est dans l'urgence. T'es à Lyon, t'es à moins un, faut que tu fasses des efforts, faut que tu fasses plus.
Mais donc, tu fais quoi, Kevin? Parce qu'on dit qu'il y a trop de mouvements à l'Olympique de Marseille. J'entends. Même Greenwood et Balardi, donc fallait les sortir.
J'ai pas dit que humblement, c'est pas facile. Parce que moi, je pense que Balardi fallait le sortir. Mais ça, c'est d'autorité publique, je pense. Fallait le sortir, il fallait prendre surtout un gros chèque. Greenwood, difficile de le sortir. Mais s'il y avait vraiment 70 patates, quand tu sais l'instabilité du gars.
Moi, je pense qu'il n'y avait pas 70 patates.
Il n'y avait pas ça.
Tu l'acceptes avec ses qualités et ses défauts. Et évidemment que des arbitres doivent se taper la tête contre les murs, je suis d'accord avec toi. Première mi-temps, il rend fou à Lyon. Quand tu vois qu'à chaque fois, ils l'ont ciblé carrément. Et d'ailleurs, Maciel te le dit à la fin du match. On sait que Greenwood, enfin, c'est connu des adversaires. On sait que Greenwood ne fait pas trop d'efforts. Donc, on a dit à Abner, vas-y, fonce de ce côté-là. À chaque fois, il joue les deux contre un, etc. Oui, il fait pas d'efforts. Mais en même temps, Greenwood, c'est un mec qui t'assure 20 buts par saison. Et aujourd'hui, en Ligue 1, c'est difficile de trouver.
22 buts,
et ouais, mais ouais, on verra le bilan à la fin de la saison. Voilà.
Une équipe à 50%.
Moi, je te signe, il les mettra.
Et puis, United à 50% à la revente.
En plus.
Il y a de très grandes chances que Greenwood reste à l'Olympique de Marseille quand même.
Je n'ai pas dit que c'était facile.
Mais sur le manque d'instabilité de l'Olympique de Marseille, où on dit qu'il y a beaucoup trop de mouvements et qu'on n'arrive pas soit à s'attacher ou à avoir un semblant de certitude.
Ça, c'est vrai. Ça.
Non, bah, si en plus de ça, tu dois sortir ton capitaine Balerdi et ton meilleur buteur l'an dernier comme Greenwood, je ne sais pas ce qu'on dirait sur l'Olympique de Marseille aujourd'hui.
Mais Walid, on ne te dit pas de sortir Greenwood, je te dis juste que c'est une déception depuis le début de saison et toi-même, tu le reconnais, on ne te demande pas de le sortir.
Il y a trois journées, les gars.
Il y a trois journées, je suis d'accord, mais il arrive Madrid dans 15 jours.
Ok, mais Madrid, tu vas le perdre le match, et c'est pas très grave. Tu vas bien dormir la nuit contre Madrid. C'est pas là où tu vas gagner ton ticket pour les 24 en Ligue des Champions. La réalité, c'est que t'as plombé ton début de saison.
L'année dernière, ils ont battu Madrid.
Oui, d'accord, mais enfin, ce que je veux dire, c'est un match bonus au Bernabéu. Enfin, il faudra y aller avec de l'ambition. Mais quand on me dit, est-ce que tu dois être prêt pour Madrid? Moi, ton début de saison, tu l'as sabordé. Et ça a été catastrophique. On en a parlé en long et en large dans cette émission. Maintenant, ça reste que trois journées. L'Olympique de Marseille va retrouver son effectif au complet. Pachao, Medina, ils vont tous se remettre à l'endroit. Ils vont recevoir Lorient. Ils vont lancer leur saison. Ils auront 6 points en 4 matchs. Ce sera un total qui est bien évidemment insuffisant, mais il faudra pas non plus tout remettre en question sur Balerdi, sur Greenwood, sur tous les joueurs. Laissons-les bosser et puis on fera un point à la J10. Hein.
Voilà. Kevin, merci d'être venu au 32-16.
Bon, c'est un plaisir, merci beaucoup.
Kevin. Ciao, Kevin.
Tu reviens quand tu veux.
Je vous rappelle pour Balerdi quand il sera remplaçant.
N'hésite pas.
Au titulaire également.
Ils sont pareils, ils ont des certitudes. Tous les Kevin, ils ont des certitudes. Hein,
c'est pas le prénom qui dit ça.
Bravo.
On a bien compris, quand il est monstrueux, il est correct. Quand il est pas bon, il est catastrophique.
Walid, c'est quoi vraiment? Je souhaite avoir tort, mais à 10 000 %.
Mais non, mais vous êtes du bon côté de toute façon.
On est quand même souvent du bon côté.
Vous êtes du bon côté de toute façon, Kevin. Il n'y a pas de souci, vous êtes du bon côté. Non, mais si.
Il y a une opinion sur un joueur et point. Voilà.
C'est tout le monde déjà une Balerdi, t'es du bon côté aujourd'hui.
Non, mais tu désingues pas.
Stop! On a fait le débat, on va pas refaire. Kevin, merci d'être venu. À très vite sur RMC. N'hésite pas à refaire le 32-16 plus tard. Vous nous appelez également dans un instant. On parlera du LOSC, bien sûr. D'abord les directs. C'est un match important pour l'équipe de France de basket à l'Euro face à la Pologne. Bonsoir Clément Brossard.
Salut Nico. Salut tout le monde. La Spodek Arena et ses 9000 personnes. Une évidemment enceinte chauffée à blanc sous le regard de Robert Lewandowski pour suivre les Polonais. Ça se passe plutôt pas mal dans ce début de match pour l'équipe de France après 3 minutes. On mène 9-5. Il va falloir retrouver la voie du succès évidemment après la désillusion de dimanche et la défaite face à Israël, 82-69 face à des Polonais qui ont remporté leurs 3 premiers matchs. C'est le match important à remporter dans cette phase de poule pour s'éviter eh bien, de finir 3e ou 4e. On est déjà qualifié hein, après le résultat cet après-midi, la victoire de la Slovénie face à l'Islande en 8e de finale, mais il faut éviter d'être 3e ou 4e parce que derrière ça peut se compliquer puisqu'il y aura de gros adversaires potentiels, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Pour éviter tout ça, il faut s'imposer face aux Polonais et puis il y aura un dernier match derrière à remporter face à l'Islande. 9-5 pour l'équipe de France après 3 minutes de jeu.
Okay, c'est parti également, quart de finale à l'US Open entre les Tchats et Alcaraz, 6-4-3-1 pour l'Espagnol. Il y aura également Taylor Fritz face à Jannik Sinner.
Djoko.
N'importe quoi, Novak Djokovic. Ce soir, ce qu'on n'a pas dit également, c'est que au moins, il sait Balerdi qu'Agerd va aller jouer la canne.
si ça sourit pour le Maroc, ça peut durer un mois. Que Medina aussi prend souvent des cartons jaunes et que il aura du temps peut-être dans la rotation si on part du principe qu'il sera remplaçant cette saison. Voilà. Bref, voilà pour Balerdi.
Et puis c'est une très bonne chose pour l'Olympique de Marseille d'avoir des solutions.
Exactement. Dans un instant, le LOSC est-il le grand gagnant du mercato ? On va égrener les noms, les arrivées, les départs, la balance également avec Jimmy Brown, avec Kevin Diaz, Wade Adjarchou. Restez avec nous sur RMC. 20h38. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, Jimmy Brown, Wade Adjarchou. Alors, précision, on est désolé, problème technique hein, sur la chaîne After Foot TV et sur YouTube. On essaie vraiment de régler ce problème. On est confus. Hein. Vous êtes très nombreux à nous écrire. Vous qui regardez l'After à la télé ou sur le net. Bon, sachez qu'il y a forcément l'appli RMC également pour écouter l'émission en direct.
Il y a de quoi être frustré parce que moi, quand je rentre à la maison.
Ben oui.
Là, moi aussi.
Je me branche en direct. Hein, et j'aime bien voir les images.
Hein. YouTube ou After Foot TV.
On est un peu dégoûté pour les 278 000 abonnés de la chaîne. Là, vous n'êtes pas autant hein, ce soir, bien sûr, mais presque.
À 1000 près.
Alors, on a fait long sur Balerdi parce qu'il y avait des appels au 32-16. Je voudrais qu'on parle de Lille ce soir également. On fait une émission un peu mercato, forcément. On a pas eu le temps d'en parler hier soir dans Génération After. On l'a fait avec les Drôles d'Âmes pour leurs 4 championnats étrangers. Je voudrais qu'on parle de Lille ce soir. Le LOSC est-il le grand gagnant du mercato ? Une trentaine de mouvements cet été parce que c'est vrai qu'on stigmatise l'instabilité à Marseille. Elle est valable dans beaucoup de clubs de Ligue 1 à cause de la situation financière des clubs de notre championnat. Trentaine de mouvements à Lille. Parmi les départs principaux, je les rappelle, Jonathan David, Angel Gomez, Bafodé Diakité, Godmond Son Zegrova, Lucas Chevalier, Rémi Cabella. Lille qui a très bien vendu 133 millions d'euros bonus compris total des ventes. Côté arrivée, bon, je le fais rapidement, Giroud, Ingaman, Perrault, Verdronk de Nîmes, le gardien Berkay Özer, Félix Correa, Nathan Goy également et Arnaud Bodard et Chancel Bemba, arrivé libre. Bemba. D'ailleurs, un mot sur Bemba, les gars, qui n'a pas joué depuis une saison. C'est un coup que tente l'étang.
Il a joué en sélection quand même.
Il a joué en sélection, mais c'est pas grand-chose. Jimmy, quand même, sur 10 mois de compétition. C'est une bonne idée, une idée pertinente ou pas, selon vous?
C'est toute la bonne idée. Après, il va falloir voir, bien évidemment.
Il arrive libre, évidemment.
C'est un coup à tenter, moi, je pense.
Comment il va se remettre?
C'est un contrat très court, ouais.
Ouais. La dernière fois qu'ils ont tenté un coup comme ça, ça s'était pas très bien passé. C'était Oumtiti, le pauvre. Mais
Oumtiti, je crois qu'il
y a un peu plus de certitude quand même.
Il sortait d'une grosse saison à Lecce.
C'est quand même toujours très très compliqué de prendre un joueur qui n'a pas joué pendant aussi longtemps, même s'il a joué avec sa sélection. L'enchaînement des matchs, la répétition des matchs en Ligue 1, c'est quand même une intensité qui est autre que les entraînements où je sais pas exactement avec qui il s'entraînait là-bas.
Il s'entraînait avec la réserve. Il y avait Jean-Pierre Tavard qui en parlait aujourd'hui, qui disait qu'il a été super pro avec les jeunes, etc.
Les entraînements, ça remplace pas la compétition, bien sûr, tout le monde le sait maintenant, pourquoi pas, mais moi je voudrais saluer une nouvelle fois le travail de l'équipe dirigeante du LOSC avec Olivier Létang, son recruteur Colson ou tous ceux qui travaillent dans ce club, parce que
t'as l'impression que tout ce que fait Létang, c'est juste, en fait.
Non mais moi, ce qui m'impressionne,
c'est juste, il y a du caractère, des fois
un peu trop, parfois, je pense,
ouais, mais des fois il tape un peu du poing sur la table, mais il y a un moment, tu sais, dans le foot, voilà, c'est ce qu'on dit avec Luis Enrique ou avec Campos,
un peu plus de Germain.
Il y a un moment, il faut quand même de la personnalité.
Oui,
il faut
mettre aussi un peu d'huile parfois.
Ouais, mais bon, il faut quand même qu'il y ait un capitaine dans le navire, et c'est le cas à Lille. Et franchement, encore une fois, il va chercher des mecs en Eredivisie, il va chercher des mecs que ce soit
en Turquie,
en Jupiler League en Belgique, au Glasgow Rangers en Écosse. Non, mais franchement, c'est très très fort.
Moi, ce qui m'impressionne encore plus que les achats, c'est des ventes. Je te dis franchement, je trouve qu'ils sont excellents vendeurs.
Extraordinaire.
Ouais, mais au-delà de Diakité, moi, on prend des plus petits profils.
90 millions d'euros de balance.
J'ai regardé Gudmundsson.
Gudmundsson,
il vient pour 6 millions en 2021, il arrive à le vendre 11 millions et demi alors qu'il a jamais été indiscutable à Lille. Il y en a un autre qui est plus marquant, je pense que vous connaissez même pas le genre, vous en souvenez même pas, Andrei Ilitch.
Ouais.
Andrei Ilitch, tu vois qui c'est ou pas? Andrei Ilitch, il a joué 16 minutes. Ouais. Il arrive en février 2024, il joue 16 minutes. Il arrive à le prêter, il avait payé 4,7 millions. Et il fait quand même une plus-value sur lui, il le revend à Union Berlin 5 millions. C'est-à-dire qu'il retombe toujours sur ses pattes, j'ai l'impression, sur tous les joueurs. Zegrova, il a pas lâché jusqu'au bout. Dernière année de contrat, il était au placard en décembre, il a pas joué, machin, il arrive à le sortir avec les bonus, je crois que c'est 20 millions pour la Juve. Et en plus, il a pas lâché sur l'OM. En plus, le petit pied de nez à l'OM d'aller récupérer Mbemba derrière, en plus, en fin de mercato.
Je sais pas si un pied de nez. Alors, c'est nous qui disons ça.
Il y a quand même une petite histoire d'amour entre l'OM et le LOSC.
Il y a un petit truc qui se passe entre l'OM et l'OL, même chez les supporters, je trouve.
Entre l'OM et Lille, tu veux dire
Lille, entre l'OM et Lille,
rivalité qui se crée en ce moment.
C'est depuis Thauvin aussi.
Il y a eu Thauvin et surtout il y a eu l'accrochage avec la suspension de Mehdi Benassia.
Oui, mais même Angel Gomez qui va à l'OM.
Exactement.
On avait parlé de Jonathan David aussi.
Les supporters l'ont mal pris. Le fait que ce qui se passe avec les temps, avec les dirigeants, la chancelle Mbemba. Je trouve qu'il y a un petit truc qui se crée. Là, c'est récent, c'est neuf.
Et puis il y a un côté aussi nerf d'acier chez les temps parce que Igaman, ça fait depuis le mois de juillet qu'on savait que Lille le voulait, il a pas lâché jusqu'au bout, il a pas voulu surpayer.
C'est une masterclass aujourd'hui.
Et il arrive fin août, alors il te prend 10 millions d'euros, il rentre, il te fait un match exceptionnel.
C'est le global là-dessus justement.
Ah non, mais moi pour moi c'est une masterclass. On aime ou on n'aime pas Olivier Létang. Il y en a qui disent que c'est du sous Jean-Michel Aulas parfois dans la communication, mais son travail il est formidable. Moi ce qu'il fait là sur cet été, on l'attendait au tournant. Moi je l'attendais au tournant parce que je crois que c'est Genesio qui en avait parlé.
Dans la salle d'attente pour
Olivier. Ouais, j'avais mon téléphone, il y avait plus de batterie. J'étais sur toutes les applications et j'attendais là le travail d'Olivier Létang, même si je lui faisais confiance et je disais que j'imaginais pas une équipe lilloise pas compétitive au 1er septembre. Genesio avait mis un petit coup aussi un petit coup de gueule pendant la prépa où il expliquait que les recrues étaient peut-être un peu tardives, mais je suis d'accord avec les gars, hein, je suis sur la même ligne. Quand on voit les départs, les arrivées, les idées, tu sors 40 millions d'acquitté à Bournemouth où c'est très bien géré encore une fois parce que au début ça a un petit peu tardé, mais à raison pour Lille, il fait le mec du Standard de Liège, Ngoy, qui fait des débuts fracassants. Il fait quand même Giroud libre, on se pose la question, est-ce que Giroud il peut faire toute la saison? Non, il ramène Igaman qui était un dossier prioritaire depuis le début du mercato et on voit qu'en une mi-temps il a montré tout l'étendue de son talent. Il y a aussi un dossier dont on n'a pas parlé, Nico, c'est André.
Il est resté solide, il a revalorisé.
Là-dessus pendant 2-3 jours, on se disait que Benjamin André.
Walid l'avait déjà envoyé au Paris FC.
Non, mais Benjamin André était au PFC.
Il y a beaucoup de monde qui pensait qu'il était au PFC.
Tout le monde disait qu'il voulait aller au Paris FC. Le mec, il l'a convoqué dans son bureau. Il a été convaincu pour qu'il continue à Lille.
Il prend pas la patte sur le début de saison, Benjamin André.
Même contre Brest, ça avait été compliqué, mais depuis, il est revenu à un très bon niveau. Donc voilà.
Haraldsson qui est là, qui va faire une grande saison, je suis convaincu.
Parce que attention, au début du mercato, tu laisses partir libre Jonathan David, donc c'est pas une bonne gestion pour un dirigeant. Angel Gomez, la même chose. Zegrova, on se disait sur les 7 derniers mois, comment ça va se passer, même dans la communication. Zegrova, finalement il va jouer, il va pas jouer.
Et puis
il sort à 20 millions à la Juventus à un an de la fin de son contrat.
J'ai une petite réserve sur le mercato, c'est la gestion du dossier des gardiens. Je trouve que ça allait assez vite quand même pour Chevalier au PSG. Je pense qu'il aurait peut-être pu en tirer en allant.
Pour l'instant, il fait le boulot. Après, attention, c'est
l'éclaircie. Et Berthier-Ozer, j'ai des interrogations sur le gardien.
Voilà. Après, c'est l'éclaircie.
Il y a quand même Arnaud Baudard derrière qui est quand même un bon gardien aussi. Non. Franchement, sur le management, après, moi, j'aime bien quand on dit, ah ouais, mais Olivier Létang, il a du caractère. Il a du, des fois, c'est un peu autoritaire. Mais vous croyez que tu gères un club de Ligue 1 si t'es pas autoritaire? Mais non, mais il y a un moment, il faut
même
bien
un club de N2, il sème la terreur. Alors tu t'imagines en Ligue 1, il mettrait des tannes à tout le monde.
C'est pas vrai. Mais il y a un moment pour avoir déjà échangé avec Olivier Létang. Bien sûr que c'est un gars de caractère. Bien sûr que le gars, il sait ce qu'il vaut, il sait où il veut
Olivier
aller.
Létang.
Mais sinon, tu ne peux pas diriger un club comme ça.
Mais surtout dans une ère,
faut pas s'oublier. D'où il vient avec Lille.
Et c'est ça. Dans une ère où on dit qu'il y a un moyen,
ils sont exsangues à cause de Gérard Lopez. Aujourd'hui, le club est stable financièrement. Le club est encore en Coupe d'Europe.
Bien bosser sans grand moyen, c'est ça qui est fort.
C'est un club, une entreprise bien tenue. Philippe est avec nous, 32-16. Salut Philippe.
Et salut à tous, merci de m'accueillir parmi vous. Donc, je voulais juste m'adresser à Walid parce que je me souviens de ses propos la veille de notre déplacement à Brest où il misait pas grand chose sur le LOSC en se disant qu'on avait 4 déplacements un peu difficiles, qu'on savait pas où on allait. Qu'il y avait une mini-crise avec Genesio qui avait fait une petite sortie médiatique. Bon, j'espère qu'il est rassuré sur notre début de saison.
Ouais, très rassuré, j'en ai parlé. T'écoutes les émissions en ce moment?
Oui, je t'écoute, mais si tu veux, j'interviens très rarement. Moi, j'écoute beaucoup tes analyses. Des fois, elles sont pertinentes, mais je trouve que t'as été dur un peu avec nous.
Peut-être.
Quand on part avec des gamins à Brest, tu te souviens de la physionomie un petit peu du match. On a un gamin qui se claque derrière,
ouais,
il y en a qui se fait les croisés. On a un Norvégien qui me fait penser à Gignac quand il arrivait à Toulouse un peu avec la charrette, tu vois. Donc c'est pas terrible, il y a des ajustements à faire. Pardo est un excellent joueur. Je pense que tu l'avais même signalé dans ton analyse. Tu disais Pardo, pourquoi pas le faire jouer en 9,5. Et là, on va chercher un mec au Glasgow qui vient, jeune Marocain. Mais je voudrais juste parler de Bouadi et Zahraoui. C'est-à-dire que c'est bien de parler d'Aralson, de Giroud. Le club a fait un gros effort de garder aussi Benjamin André. Mais par contre, moi, je veux mettre en avant l'institution qui se maintient quand même avec des jeunes qui progressent au niveau du club. On a un budget de 115 millions cette année. On a réussi pour vendre pour 130. Zegrova est parti, c'est très bien. Moi, je pense qu'on sera sur le podium cette année. Moi, j'en suis convaincu. Dans ce championnat qui est un championnat low cost, on va être clair, Paris sera au-dessus. On n'est pas dans le même championnat. Mais je pense que si nous, on se base sur des clubs comme Monaco, comme Lyon, on n'a pas à rougir. Et je pense qu'on finira pas, comme tu l'avais initialement prévu, aux alentours de la 8e, 5e place. Je pense que nous, on sera dans le top 5.
Non, moi, j'avais dit 4-5. Moi, on parlait notamment de la concurrence avec Strasbourg, qui était le favori. La question, c'est à la 4e place.
Est-ce que tu peux, comme Philippe le dit, imaginer Lille plus haut qu'une 5e
place?
Oui,
bah, c'est une possibilité avec la cohérence qu'il y a depuis cette fin de mercato. Avec, il va falloir voir aussi. Attention, le duo Genesio l'étant, parfois c'est un peu compliqué, ça peut couiner en termes de communication.
Walid, t'as pas de strat, si tu veux, intermédiaire entre l'étang et Genesio. Tu vois, à Marseille, t'as Benassia, t'as Longoria, t'as De Zerbi, t'as une tête de trop pour moi. Chez nous, on a toujours fonctionné avec des binômes très costauds.
C'est vrai, c'est vrai.
Tu prends Puel avec Sédou ou Graille avec Vaïd. Nous, on a toujours eu ce mode de fonctionnement à Lille qui a toujours fonctionné, même avec Garcia à l'époque. Bon, c'est sûr qu'on avait des générations. Ouais,
après, c'est pas forcément les mêmes personnalités. Francis Gray, dont tu parlais, Michel Sédou et Olivier Létang, ils prennent peut-être pas la même place aussi, tu vois.
Ouais, mais si tu veux, dans la philosophie, dans la gestion, c'est des gens qui sont très terrain. Et je pense que la force de Létang, c'est un peu la métaphore du sous-marin. C'est-à-dire que le mec, quand il monte à la surface, il est précis, il est ordonné et il fait des choses cohérentes pour le club. Parce qu'aujourd'hui, on revient de loin quand même, hein, avec Lopez, avec Renard, avec Antonetti. Là aujourd'hui, on est quand même sur un projet qui donne envie, qui a de la couleur.
Non, mais le projet, il est très très cohérent.
Après, on verra. Il y a une limite. Attends, juste Philippe, il parlait de Sarraoui, il parlait de Bouadi également. Il y a Igaman. Ce trio-là, il n'est pas impossible qu'il soit à la CAN et avec l'équipe du Maroc. Et pour ce que représente déjà une CAN, au-delà du fait que effectivement tu vas être absent un petit moment, et c'est pas dramatique parce que je crois qu'il y a qu'une ou deux journées de championnat et un tour de Coupe de France pendant la CAN.
21 décembre, mais 17 janvier.
Pour l'importance que va avoir cette Coupe d'Afrique au Maroc pour la sélection marocaine, je pense que que tu réussisses la CAN, que tu ailles au bout ou à contrario que tu sois éliminé de façon précoce, ça peut peser beaucoup sur les joueurs qui seront. Je pense que émotionnellement parlant, la charge émotionnelle que va avoir cette CAN pour la sélection marocaine et pour tous ces joueurs, je pense que ça va être un élément important.
Bouadi, il va falloir qu'il fasse son choix.
Et Sarraoui, il n'est pas impossible qu'il soit aussi.
Oui, mais Sarraoui, il n'est pas sûr d'y être, il n'est pas dans les plans.
Il n'est pas dans le 11, mais il sera indiscutable
aujourd'hui.
Mbemba va jouer aussi la CAN.
Ouais. Exactement.
Après le seul bémol où là je suis d'accord avec Walid. Bon, on a un gardien turc effectivement. Bon, il est ce qu'il est. Je pense qu'au niveau des sorties, c'est très hasardeux. Moi, je le trouve très très moyen sur les sorties. Je pense qu'il nous fera quelques bourdes cette année. Il nous sortira des gants en peau de pêche. On va y avoir droit, je le sais. Mais globalement, je pense que l'assise, le projet, la structure, le fait qu'on a aussi Giroud, parce que je pense que si Giroud joue à Lorient, c'est 3 matchs, 3 buts, voire peut-être, il peut mettre peut-être même un doublé, je pense, à Lorient. Donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui, 3 journées,
il y a un mélange d'expérience et de jeunesse qui est très intéressant. Maintenant, il va falloir voir l'arrivée de l'Europa League
et la gestion
des enchaînements.
Mois de septembre, Lille-Toulouse, Lens-Lille, Lille-Brenbergen, Lille-Lyon et Roma-Lille. Et Lille-PSG début octobre.
Donc, il va falloir voir cet enchaînement-là. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que du côté de Lille, il y a des joueurs frissons, il y a des joueurs qui m'intéressent.
Ouais,
moi, footballistiquement, ce qu'ils ont déployé, notamment sur la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps contre Lorient, tu prends Igaman. Fernandez Pardo.
D'autres pensaient qu'il allait partir, hein, Fernandez Pardo.
Un Boadi,
un
Correa qui a trois passes D depuis le début de la saison.
Il y a Thiago Santos qui va pas tarder à revenir aussi.
En plus.
Ouais, tu vois, Félix Correa, c'est vraiment le type de joueur. On va le chercher à Gil Vicente, on va le chercher au Portugal. C'est-à-dire que la cellule de recrutement aussi travaille d'une façon très pertinente. Tu vois, il y a vraiment des choix, quand je te dis, qui sont très très précis. C'est un joueur qui arrive, qui a pas percé à la Juve, hein. Il était chez les jeunes, il est formé au Sporting. Bah, il arrive à Lille, bah ça se trouve pour nous c'est banco, tu vois, ça se trouve le mec dans deux ans on peut le revendre peut-être 20, 25, 30, tu vois. Nous on vit de ça aussi, tu vois. C'est un peu la.
Et puis le retour de Thiago Santos aussi, je l'attends.
Ouais, ouais, ça a été dit, je crois, juste à l'instant par Kevin. Ouais.
Bon voilà Walid, hein, c'est désolé hein, mais je voulais juste te rappeler ça, voilà.
Mais pas du tout, quand tu fais
ça Walid, c'est comme Walid, les politiques, tu sais, hein, on te rappelle tes côtes, tes déclats il y a 6 mois.
Quand Walid est dans la salle d'attente, il est en général très 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 très, très véhément.
Non, pas du tout, je donne juste un peu d'exigence et un peu de respect à tous les clubs de Ligue 1.
Ouais, non, mais moi j'avais apprécié ton analyse, mais tu sais, moi je trouve que le temps est un excellent maître, il règle bien des choses.
Et t'as bien raison.
Dit, putain, il nous taille quand même avant d'aller à Brest, et je me suis dit quand même, on sort de Brest avec un poids, c'était pas mal, quoi.
Vous taillez pas, si on gagne les deux d'après, je vais l'appeler, je vais l'attraper.
Tu vois, et t'appelles derrière, et puis ça fait un bon débat.
Tout à fait. Merci, exactement. Philippe.
Merci à tous, bonne soirée.
Allez, salut, à Philippe. Très vite sur RMC. Avant de faire la pause de basket, fin du premier carton, début du deuxième, Clément Brossard, l'Euro France-Pologne.
Exactement. On vient de commencer le second quart-temps, 27 à 24 pour l'équipe de France. Et il y a un motif de satisfaction, c'est qu'on a retrouvé le capitaine Gershon Yabusele, auteur de 12 points dans le premier quart-temps, 44% des points français, lui qui était en difficulté avec 8 points de moyenne. Et pourtant la Pologne avait très bien entamé le match en allumant la mèche, notamment par le monégasque Jordan Lloyd à 3 points. Ils sont à 4 sur 5 à 3 points les Polonais, mais on résiste et surtout on fait du gros boulot à l'intérieur. 27 à 24 pour les Français, début de second quart-temps à l'instant.
La deuxième heure de Génération After à venir au programme. Le miracle lyonnais peut-il tenir? On écoutera Jimmy aussi qui s'interroge sur l'expertise de Red Bull qu'il ne voit pas sur le mercato du Paris FC. Et puis si on a le temps, ou on le fera demain autrement, Rennes peut-il redevenir un candidat en Europe? Reste avec nous Kevin, Walid, Jimmy, Génération After RMC, matin 59.